j'apprends en lisant le Canard enchaîné que Sarkozy aurait traité Fillon de connard et d'abruti. Bah, écoute, moi j'ai rien à ajouter, hein, c'est très bien comme ça. Au revoir.
Salut Daniel, salut toute l'équipe, salut les AMG. Écoutez cette interview de Sarkozy du 6 avril 2004.
On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Terre de France. C'est clair, c'est simple et c'est net.
Il nous aurait menti. Allez, pour les cons qui n'auraient pas encore compris, c'est simple, c'est clair, c'est net. Merci Daniel, on vous aime.
Bonjour, trouvé sur le site de France2.fr et à l'heure de 20h23, incident nucléaire dans la centrale de Krzkro, qui dit que le système d'alerte européen sur les risques radioactifs a été déclenché après un incident dans une centrale de Slovénie. La Commission européenne a pris cette mesure mercredi après un incident survenu dans la centrale de Krzkro en cours de mise à l'arrêt.
Tout va bien, pas de panique, restez chez vous. Fermez les fenêtres et allumez la radio. Je répète, allumez la radio.
Bonjour, c'est Christine de la Creuse. Je suis en voiture. J'écoute votre émission d'aujourd'hui sur la Chine, les greffes. J'ai dû m'arrêter. Je crois que je vais vomir. C'est complètement surréaliste. J'avais déjà lu un bouquin qui s'appelle « Danse pas avec la Chine » qui parlait de... en référence à Chirac et Bernie qui avaient reçu le dictateur chinois. Et dans son bouquin, je répète, « Danse pas avec la Chine », il parlait justement des grèves d'organes. Mais quand déjà, c'était hallucinant à lire, mais à écouter comme ça, ça prend une dimension mais complètement surréaliste. On dirait qu'on parle de boîte de poireaux. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et j'ai envie de vomir. Hallucinant.
Eh ben non, on ne pense pas que ça fait un effet pareil, nos reportages. Il faut dire que c'était assez violent, même si c'est pas nouveau. Il faut faire très attention, là on va continuer de parler de la Chine. Aujourd'hui, à travers ce retour en Chine, faut faire très attention parce que ce que nous essayons de montrer, c'est l'horreur du miracle chinois en somme, mais ce miracle chinois, nous en profitons. Les pays riches en profitent par les délocalisations. Il y a toute une série d'entreprises françaises qui sont présentes en Chine et qui profitent de ces deux tiers de Chinois qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et puis il y a les grandes entreprises multinationales qui profitent très très largement de la situation, pour ne pas dire qu'ils la maintiennent, que ces grandes entreprises maintiennent cette situation. Alors évidemment que la critique doit être faite envers les gouvernements chinois, centrales, locaux, régionaux, etc. Mais il y a cette complicité internationale, et on va en avoir un aperçu à nouveau aujourd'hui avec le sujet qui tourne autour de l'énergie et des mines. Vous savez qu'il y a énormément le charbon et les mines sont la ressource essentielle énergétique en Chine. Donc voilà notre sujet du jour, la suite de ces reportages. Et puis autre chose dont je vous ai parlé hier, c'est la bonne nouvelle, il arrive enfin, cher SDG, c'est-à-dire souscripteurs modestes et géniaux, le DVD Chomsky et compagnie va vous parvenir dans les jours qui viennent. Ça fait jamais qu'une petite année de retard. Alors on va ouvrir sur le site labas.org, un repère Chomsky où vous trouverez des infos complémentaires, des liens et surtout un espace pour vos commentaires sur le film. Attendez, pour faire des commentaires, attendez d'être sûr d'en avoir reçu. Mais ça va fonctionner. Et puis alors, pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, parce qu'il en reste quand même quelques-uns qui n'ont pas encore souscrit, attention. Si vous n'avez pas encore souscrit, vous avez jusqu'au 18 juin 2008 à minuit pour faire partie de ce gratin que sont les SMG, les souscripteurs modestes et géniaux, et pour recevoir le DVD Chomsky et compagnie. Pour cela, vous allez, vous avez la marche à suivre sur labat.org. Si vous ne souscrivez pas d'ici là, d'ici ce 18 juin à minuit, attention, après cette date, vous deviendrez tout petit avec des talonnettes. On va donc en Chine aujourd'hui. Et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Bernet, auditeur du Pays Basque et de la basse, si j'y suis. Nous tenons à vous informer qu'une manifestation se déroulera devant le magasin de Castorama d'Anguette le vendredi 6 juin à 16h15. En effet, 4 salariés de Castorama, syndiqués CGT, dont le délégué syndical, sont convoqués ce vendredi pour l'entretien préalable à des sanctions allant jusqu'au licenciement. Leur faute, faire grève depuis quelques jours pour obtenir des conditions de travail et de salaire meilleurs. Si vous pensez que le droit de grève est un acquis et que celui-ci ne doit pas être remis en question, alors n'hésitez pas à venir participer à la manif de soutien aux 4 salariés de Casto le vendredi 6 juin à 16h15 devant le magasin de Castorama d'Anglette. D'avance, merci. Si l'équipe de là-bas, si j'y suis, désire obtenir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter Christophe Panzano, le délégué syndical CGT de Casto. Je vous remercie.
Oui, bonjour, c'est Laurence. Je travaille à l'hôpital de Carré en centre Finistère. Ça fait des mois qu'on se bat contre la fermeture de la maternité et des chirurgies qui est programmée pour vendredi prochain, donc demain. Là, nous sommes à Quimper et la seule réponse que l'État nous propose, c'est 7 quarts de gendarmes mobiles. Donc, voilà où en est la santé aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est malheureux. On se demande aussi pourquoi l'État ne médiatise pas ça, c'est mieux Roland-Garros. Merci beaucoup.
On se retrouve alors comme d'habitude au Bédonia, 61 bis rue des Héros-Nogentais, demain vendredi à 20h30. Annie Lamère nous fera un petit topo avec documents, tout ce qu'il faut, sur un débat qui a eu lieu il y a 2 semaines avec Vincent Liégé à propos du pic de production de pétrole et de la décroissance. Et puis on cherchera aussi le plus concrètement possible comment on peut faire circuler les différentes infos qu'on reçoit les uns et les autres. Voilà. Et puis samedi 7, c'est le repère du 20e arrondissement à Paris, au lieu dit 6 rue Sorbier, de 17h à 19h. Voilà, on vous attend tous. Salut.
Bonjour les AMG, le Café Repère de Grenoble vous accueille jeudi 5, donc ce soir à 18h30, autour d'un petit verre d'un casse-croûte. Vous êtes tous les bienvenus de 18h30 à 20h, 20h15. Pierre vous accueillera au Café-Restaurant La Bonheur, à Grenoble donc. À tout à l'heure, bye.
C'est un message pour les auditeurs de là-bas si j'y suis et de France Inter. Aujourd'hui, les agents des impôts et des finances se réunissent à la place du président Édouard Herriot dans le 7e arrondissement pour s'opposer à la loi contre la mobilité. Et voilà, ce qui est malheureux, c'est que actuellement les impôts et les centres des impôts sont en grève. On nous envoie les flics pour justement dégager les piquets de grève. Et c'est vraiment malheureux de voir que le service public n'est pas défendu correctement. On appelle les citoyens à se mobiliser pour défendre le service public et on espère que aujourd'hui nous serons nombreux.
J'ai entendu dire qu'une belle Italienne avait un mari qui avait 5 cerveaux. 5 cerveaux, ça fait beaucoup pour un seul homme, ne trouvez-vous pas? Donc je propose qu'on l'envoie dans une prison en Chine, afin qu'il puisse faire don de 4 cerveaux à des gens qui n'en ont pas. Ce serait vraiment, vraiment très très bien.
Ça prend un gros klaxon dans la face.
Bienvenue en Chine.
Bienvenue en Chine.
Nous, on est français.
Oh.
France. On vient de France. Ah, ouais, c'est ça. Tu connais la France?
Si je suis là-bas, là-bas, si je suis France Inter, France Radio.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, c'est l'entrée du puits, mais l'entrée du puits est complètement au milieu des gravats, quoi. C'est un truc complètement improvisé. Alors on s'approche, la machine n'est pas grande, le puits est tout petit, et tout est noir, tout est encombré. Là, il y a un bassin d'eau, des câbles qui descendent dans un trou sous terre. Un petit malheureux petit groupe électrogène, fait pout pout pout. Et voilà, on est sur la mine. Trois wagons de houille, les reins. Alors on s'approche, c'est un tout petit puits, mais alors c'est un trou qui s'enfonce dans le noir absolu, mais... Ah, voilà la cheminée qui remonte, ça dégouline d'eau. L'ascenseur qui descend à la mine vient d'ouvrir. Mais c'est trempé, pourquoi il y a de l'eau qui coule de partout.
Parce qu'en fait, sous le sol, il y a de l'eau, il y a des nappes d'eau.
Ah,
il y a de l'eau.
Et c'est pas dangereux ça?
Ouais, c'est dangereux.
Et c'est très profond ?
Un peu plus de 200 mètres.
Voilà, on a éteint le groupe électrogène et là, vraiment, on a l'impression d'être dans Germinal. C'est-à-dire, c'est des vieux, 4 ou 5 vieux wagons complètement pourris, rouillés. Un chevalet de mine qui fait 10 mètres de haut, pas plus. Un puits en briques qui descend. Et un petit mont de charge de rien du tout qui permet... de descendre au fond de la mine. Et si on regarde à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? Un terril, deux terrils, trois terrils, quatre terrils, plus ou moins grands. Là, celui-ci, c'est vraiment le plus petit que j'ai vu. Et sur chacun d'entre eux, un petit drapeau rouge. Ah, voilà les mineurs qui se préparent. On monte dans le mont de charge. On ferme la grille. Hop, faut qu'on recule. Il s'accroche à la grille. Et voilà, le monte-charge qui descend à toute vitesse au fond. On entend les voix des mineurs qui résonnent un peu. Ça y est, on ne voit plus rien. Maintenant, on les entend un tout petit peu. Plus le cuicui des oiseaux. Mais ils ont disparu dans les entrailles de la terre.
En Chine, une explosion dans une mine a fait 49 morts et 7 blessés.
En Chine, l'explosion d'une mine de charbon aurait fait près de 150 victimes.
Les mines chinoises sont généralement considérées comme les plus dangereuses au monde.
En Chine, au moins 203 personnes ont été tuées lors d'une explosion dans une mine.
La houille représente 70% de l'énergie consommée par le pays.
En 2004, plus de 6000 mineurs ont péri dans les mêmes circonstances.
Mais ces mineurs ignorent le danger. Pas d'assurance, bien sûr, ni de sécurité sociale, et encore moins de retraite.
Les mines de charbon tournent à plein régime dans le pays, souvent au détriment de la sécurité. La Chine dépend en effet du charbon pour son électricité.
Et rien que depuis le début de l'année, explosions, effondrements, incendies et autres accidents ont provoqué quelque 2700 morts, chiffre officiel.
De toute façon, on meurt jeune ici. Ces mines privées n'ont même pas de licence d'exploitation.
Un coup de grisou extrêmement meurtrier en Chine, plus de 200 morts.
La Chine a besoin de charbon pour alimenter son industrialisation à marche forcée et sa formidable croissance économique.
Formidable croissance économique, mais à quel prix? À quel prix? La Chine extrait près de 3 milliards de tonnes de charbon et en a besoin encore et encore. Cet éléphant, ce dragon monstrueux qui se développe et dont le développement semblerait ou semble parfois échapper à ses initiateurs, à ses instigateurs, a besoin de plus en plus d'énergie avec toutes les conséquences que, évidemment, cela a sur, bien sûr, l'environnement et bien sûr sur les humains. En 1999, les mines chinoises ont été privatisées et dès lors, ça a été un déchaînement de privatisation qui a été organisé, entre guillemets, et qui a profité en tout cas au cadre du parti, à la nomenclatura locale, aux petits chefs, qui ont ouvert des mines privées. Et à travers tout le pays, se sont multipliées ces mines privées. Alors aujourd'hui, on va dans une de ces mines, on va dans la province du Henan. Le Henan, c'est au cœur de la Chine, c'est la Chine profonde, c'est une accumulation de problèmes. Là, on est vraiment dans l'envers du décor, on n'est pas du côté, on n'est pas sur la côte, là où ça scintille, là où ça brille, là où vont la plupart de nos collègues qui vous présentent toujours ce fascinant bond en avant de la Chine. On va un peu dans les coulisses, un peu à l'envers, et on va d'abord à une heure environ de Pékin arriver à Zhangzhou, une grande ville, et puis là on ira à Xinmi, et puis là encore on continuera la route jusqu'à Daping, une mine d'État. C'est encore une mine d'État où le 20 octobre 2004, un coup de grisou a tué 122 mineurs et quelques autres ensuite sont morts des suites de leurs blessures. On va revenir un peu sur cette histoire, sur cette affaire, pour s'approcher un peu plus de ce chat noir et ce chat blanc. Aucune importance, on l'a dit, la proie est plus importante. Mais chat noir, chat blanc, ça fait gueule noire au cœur de la Chine. C'est jusqu'à 16h et c'est la basse division.
Là, c'est un mariage. Surprise pour nous, parce que tout ce qui est mariage en Chine, c'est rouge. La mariée est en blanc, mais tout autour, les voiles, les décorations, etc. sont en rouge. Et il y a une fanfare de jeunes filles qui jouent à peu près des airs, à peu près approximativement. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'inexplicablement pour nous, il y a une petite voiture qui circule, un petit van comme ça, et à l'arrière de ce van, il y a des orgues de Staline en réduction. Hein, c'est grand tuyau, comme ça, une... C'est pas les orgues de Staline, c'est les pétards. Et voilà, et toute la ville est en émoi. Enfin, en émoi, ouais. Enfin bon, voilà, c'est un mariage, quoi. Mais c'est très rigolo, c'est les orgues de Staline.
Voilà, un joyeux mariage ce matin-là à Zhangzhou. C'est bon enfant, c'est beau. Et alors on fait péter des pétards évidemment devant la somptueuse berline toute drapée de rouge, couleur du mariage. Et pourquoi les pétards? Eh bien évidemment pour chasser les mauvais esprits qui pourraient traîner dans le coin et porter malheur aux jeunes époux. Le coup des orgues de Staline, on n'a pas compris. On n'a pas su ce que c'était. Et ça fait partie de ces innombrables choses que nous n'avons pas comprises en Chine. Mais on fait de notre mieux. Donc on prend la route, je l'ai dit, pour Xinmi. Et là, en route, après le mariage, un enterrement. C'est le long de la route, c'est une cérémonie funéraire. C'est une cérémonie funéraire. Les gens ont l'air plutôt des villageois. Et il y a deux instruments de musique étonnants. Un instrument qui est une sorte de biniou, entre le biniou et l'orgue portative. Et puis il y a deux énormes fleurs géantes multicolores en papier.
Tout au milieu, le petit, les quatre caractères, ça veut dire je vous souhaite d'être heureuse pour toujours au paradis.
Ah, je vous souhaite d'être heureuse pour toujours au paradis. Ouais. D'accord. Mystérieusement, à l'entrée du reposoir, il y a deux chevaux qui ont là des chevaux en papier, un violet et un blanc. Les gens portent des foulards blancs autour de la tête. Et ça, évidemment, c'est un signe de deuil. Et puis, il y a ce reposoir, c'est une grande tente qui est installée là entre les arbres, avec des inscriptions en blanc sur fond noir. Et à l'intérieur, on aperçoit des choses multicolores, des fleurs, le cercueil. Le cercueil doit être à l'intérieur. Et les gens nous entourent, hello. Tout surpris. Hello.
Hello.
Alors voilà, pour un enterrement, il y a une charmante chanteuse qui vient et qui chante. C'est pour, je ne sais pas ce qu'elle chante, je vous l'avoue, mais ça fait tout à fait chanteuse de variété, chanteuse de bal, qui chante pour les amis et les villageois qui assistent à cette cérémonie funéraire. Il y a ces deux musiciens qui jouent l'un d'une sorte d'orgue à bouche, l'autre d'une sorte de trompette, de cuivre en tout cas. Et puis il y a la famille coiffée de tissus blancs noués autour de la tête, avec à l'endroit du mausolée, à gauche et à droite de ce mausolée, deux chevaux de papier qui, me dit-on, permettent à l'âme du défunt de monter, de gagner le paradis où l'on souhaite, où tout le monde souhaite que l'âme du défunt y vive heureuse à jamais. On continue la route à travers le Rhénan jusqu'à la mine d'abord la ville de Xinmi, et jusqu'à ensuite on va essayer de gagner la mine de Daping où donc il y a eu cet accident il y a quelque temps. C'est un moyen pour nous d'essayer de comprendre comment vivent ces fameux mineurs chinois et les revendications. Et c'est pas facile, on ne peut pas dire que les journalistes soient bienvenus, surtout des journalistes comme nous qui sont extrêmement visibles avec nos longs nez. On est dans des régions où on n'a pas souvent l'habitude, l'occasion de rencontrer des étrangers. Alors c'est des régions minières, la mine, je le répète encore, le charbon est un enjeu central en Chine, les mines privées se multiplient de la façon la plus anarchique et bordélique possible, si bien qu'il est pas rare que ça et là, au-dessus des mines qui ont été creusées, les maisons qui ont été construites s'écroulent tout simplement et qu'il faille partir.
Ah, c'est une petite ruelle avec un vieux camion tout défoncé, avec une famille qui est là devant sa maison en Iran. On se propose des cigarettes et réciproquement. On se prend un gros klaxon dans la face. Et là, il y a toute une famille avec derrière un énorme camion. C'est quoi? C'est des armoires, des meubles. C'est votre maison là?
Ah, c'est notre maison, ouais.
Vous habitez là? Vous faites quoi? Vous êtes des mineurs?
Non, mineurs.
Non, on est paysans.
Paysans, mais y a pas, je vois pas de champs ici. Je vois que des terrines, je vois que à perte de vue, on voit des cheminées, des briques, de la terre noire, de la poussière.
Yoma, Yoméo.
Meo
de. Non, y a plus de terre. Y a plus de terre pour cultiver. Tous les terrains ont été pris, ont été. On n'a plus de terrain. Donc ça a été pris par la mine en fait. La mine a préempté tous nos terrains.
Ah. Et on peut voir votre maison là. Alors on rentre, là c'est les vieux pas de, les pas de porte modernes mais dans le style ancien. On rentre dans une cour intérieure. Oh là, mais c'est complètement en vrac là, déserté à moitié. Les pièces sont vidées. Là il y a la tension qui reste de cuisine avec quelques instruments agricoles. Là on voit une pioche, une pelle. Et là c'était la chambre. Et on rentre dans une pièce complètement désertée. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est bon, c'est le... Il y a des fissures et des lézards. Non, c'est plus des lézards, là. C'est carrément des crevasses sur les murs. Les dalles au sol sont complètement disjointes. Et en fait, la maison... Votre maison, elle est en train de s'effondrer, en fait, c'est ça?
Ah,
ouais, c'est ça. Notre maison, elle est en train de s'effondrer.
Mais depuis quand?
Ça fait 6 mois.
Avant, ça n'avait rien.
Avant, non, il n'y avait pas de problème.
Ah, la dame, elle est très remontée là.
Ouais. C'est la mine. C'est la galerie de la mine.
La mine.
C'est à force de retirer le charbon sous le sol. Ça fait des trous, ça s'effondre. En dessous du sol, c'est vide.
Oh là, la joie, oui. Là. C'est carrément. Le toit menace de s'effondrer parce qu'il y a vraiment un écart de 4 ou 5 cm entre les murs porteurs et le plafond. Quoi. Et là, vous êtes en train de déménager la maison et vous partez les... comme ça.
Oui, oui, c'est ça, on a juste ce camion.
Et vous allez où alors?
Pingmo.
Non, on va au village, là, au village, au village de Pingmo. Ah.
C'est loin?
C'est pas loin.
Pas loin.
Bon, allez, on y va. Hein.
Allez, bon, vous partez alors. Et voilà, comment une... tout simplement, sans dire grand-chose, une famille quitte sa maison. Hop, on ne claque même pas la porte là, c'est nous qui gardons la maison, Luc et moi. Et la famille s'en va avec 2 armoires, quelques chaises et la maman et les enfants et les cousins là sont installés à l'arrière de la remorque.
Et là on a vraiment une des raisons, on comprend pourquoi les gens quittent les campagnes pour aller travailler en ville, dans les usines.
Et là pendant qu'on marche, là on voit le trottoir est complètement lézardé. Et c'est vrai que toute la campagne, tout alentour, je sais même pas comment ils font pousser quelque chose, parce que tout est noir et couvert de suie.
C'est quand même un paysage extraordinaire. Hein. Les mines, comme elles ont disparu en France, mais là, c'est en activité. Derrière moi, il y a les terrils, avec le charbon qui arrive en haut du terril. Là, d'énormes cylindres de béton crasseux qui montent à 50 mètres, oh, au moins, de haut. Ah, là-haut, il y a 2 gars qui nous regardent avec leur casque. Il y a cette rampe énorme en béton crasseux, noir. Là, on aperçoit là-haut, voilà, tout en haut du terril. Et là, tout en haut du chevalet, c'est le drapeau rouge. Ça, c'est ce qui reste de cette nostalgie au temps où la Chine était le paradis des prolétaires. N'empêche que c'est une vraie nostalgie, là, on voit, hein. Le mineur était un héros, il n'y a pas que là, hein. Chez nous aussi, en France, hein. Le mineur, c'était un personnage important.
Les mineurs en Chine ne sont plus les héros prolétaires, les fiers ouvriers de jadis, que ce soit d'ailleurs effectivement en Russie, en Pologne, en Roumanie, partout on a vu, c'était la fin de cette figure, la fin du mineur, y compris d'ailleurs dans le Grand Nord russe. Et en Chine, même si en fait 70% de l'énergie est produite par le charbon, les mineurs, ces mineurs vivent un déclassement. La plupart n'ont pas retrouvé
d'emploi stable après les licenciements massifs de 1990. C'est valable pour les mineurs, c'est valable pour tous les ouvriers de l'industrie chinoise qui jouissaient de ce qu'on appelait le bol de riz en fer, c'est-à-dire garantie d'emploi à vie et protection sociale, éducation, etc. Tout ça a été un peu rustique, mais enfin, tout le monde en était assuré. Alors, contre ces licenciements massifs, quelques mesures ont été prises pour limiter les effets de cette gigantesque casse sociale, mais la grande pauvreté gagne chaque jour ses milieux, et aussi le sentiment d'un déclassement, littéralement. Il y avait le sentiment d'appartenir à une certaine classe, et c'est ce déclassement. Alors là, on fait connaissance avec les mineurs de cette mine d'État. Je le rappelle, ils sont environ 4000 mineurs à travailler sous terre, les gueules noires. Ah ouais, ouais.
Ira.
Là, on se regarde vraiment. Nous, on regarde les mineurs et les mineurs nous regardent, là. C'est souriant. On est plus surpris qu'autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent ici de temps en temps ?
Non.
Il n'y a jamais d'étrangers qui viennent ?
Jamais.
Et c'est bien la vie ici ?
Pas mal.
Comme ci, comme ça.
Là, c'est quoi ? C'est le repos ? Vous vous reposez un peu au soleil, là ?
Ouais, on se repose, là.
À combien de profondeur vous descendez ?
À plus de 200 mètres.
200 mètres ?
Ah, regarde, on attend le panier à salade qui descend, là.
Combien de temps vous travaillez ? Combien d'heures vous travaillez au fond ?
8 heures.
8 heures ?
Ouais, il y a beaucoup de boulot.
Et est-ce que vous avez un jour de repos ? Ah, c'est 7 jours sur 7.
Les jours de repos, c'est pour les chefs.
Et combien on gagne quand on est mineur comme ça ?
1000 quoi, 1000 yuan.
100 euros. Pour 8 heures par jour, 7 jours sur 7, 100 euros. Et est-ce que vous avez des vacances ?
Peut-être qu'on aura que 2 jours de vacances pour le nouvel an chinois.
Ah, alors donc les congés, c'est 2 jours par an.
Ah,
ouais, c'est ça. On a 2 jours de vacances au moment de. Bon, allez, je vous laisse, il faut que j'aille.
Allez, ok. Ok. Ce qui est incroyable, c'est que la mine marche encore. On a l'impression d'être dans une friche industrielle, une friche minière en l'occurrence. On en a vu pas mal en Lorraine, en Roumanie, un peu partout, en Pologne, en Russie. Et sauf que là, ça marche. Sauf que là, ça a l'air d'être une ruine, mais c'est pas une ruine, ça fonctionne. Et ça fonctionne même à fond.
Avec un drapeau rouge tout en haut.
Selon le South China Morning Post de Hong Kong, donc des journaux a priori plus libres, entre guillemets, que les journaux chinois, pour l'extraction d'un million de tonnes de charbon, il faut compter 12 morts par accident. 12 morts par accident dans les mines privées et un mort dans les mines d'État. Donc, les mines d'État sont quand même plus sûres, enfin, moins dangereuses, disons plutôt. Il y a quand même des équipements, il y a quand même certaines compétences du personnel, des mineurs, mais c'est les mines privées qui se multiplient pour arriver, je le répète encore une fois, à une estimation de 20 000 morts par an dans les mines chinoises. Les chiffres officiels sont de 6 à 7 000. Le grand problème pour la Chine, c'est que, évidemment, les chiffres qui sont produits sont donnés de façon officielle, donc évidemment par nature, on va dire, éminemment discutable. Et c'est les seuls chiffres dont on peut disposer. Il est très très difficile d'établir d'autres chiffres tout simplement dans ce pays. Cet énorme pays, quatrième puissance économique
économique du monde en passe de devenir peut-être la première puissance économique du monde. La première puissance du monde. Donc, les chiffres, à chaque fois qu'on donne des chiffres dans cette émission, il faut les prendre avec des pincettes. Sauf quand même le chiffre de 122 morts et une vingtaine de disparus le 20 octobre 2004 dans cette mine. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est qu'on aimerait bien revenir un petit peu sur les circonstances de ce coup de grisou et la façon dont ça a été traité. Et puis surtout, le silence qui s'en est suivi. Des indemnités ont été versées aux victimes, enfin aux familles des victimes, à quelques personnes qui ont été blessées, quelques mineurs qui ont été blessés également. Et puis après, ça a été silence. Journalistes dehors, vous n'êtes pas bienvenus. Certains journalistes ont été repoussés de façon très musclée. C'est pas le seul endroit d'ailleurs de Chine où les journalistes sont malvenus. Alors, on a essayé d'en savoir un peu plus. Et pour en savoir un peu plus, on va rencontrer Shan Shun. Shan Shun, c'est un mineur. C'est un mineur qui en a gros sur la patate et qui a envie de se confier, ce en quoi il prend des risques. Mais les mineurs, si bien connus, certains en tout cas, sont courageux.
Je m'appelle Yuan Xingshun, mais on demande à m'appeler Xiaoshun.
Et là, on est chez vous, dans cette petite maison. C'est une drôle de petite maison, hein. C'est pas le grand confort, c'est une petite ruine, quoi. Avec un coin qui fait lit, avec deux, trois posters. Il y a des bergers allemands, et puis des femmes, des très jolies femmes, blondes, grandes. C'est le rêve de notre ami, qui est mineur. Mais est-ce que vous êtes toujours mineur?
Oui, je suis toujours mineur.
Ah. Et c'est-à-dire que tu descends toujours dans le fond?
Non, je descends plus. Je travaille en surface.
D'accord.
C'est depuis 20 ans que je travaille comme mineur, mais j'ai travaillé au fond de la mine pendant 5 ans.
Mais mon père aussi.
Mon grand-père, mon père, ils sont tous mineurs. Mon grand-père, il a travaillé dans la mine de Jiaozuo et mon père, il travaille ici. Donc j'ai hérité la carrière de ma famille.
En Chine, l'explosion d'une mine de charbon aurait fait près de 150 victimes. L'accident s'est produit sur un site de la province du Henan, dans le centre du pays.
En 2004, il y a eu un gros accident ici. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment s'est produit l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé?
Un nouveau chef est arrivé dans la mine. Ce nouveau chef a voulu détourner les bénéfices de la mine qui normalement reviennent à l'État. Pour les détourner, il a creusé, il a construit, il a constitué sa propre mine personnelle de manière clandestine à l'intérieur de la mine d'État. En même temps, il y a beaucoup de gaz sous le sol. Les installations n'étaient pas très très bonnes là-bas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les mineurs en fait se rendaient bien compte que les conditions de sécurité n'étaient pas satisfaisantes à cet endroit-là de la mine et refusaient de travailler pour cette raison. Alors un jour, il y a du gaz qui s'est accumulé dans les galeries et il fallait l'évacuer immédiatement. C'était dangereux. Comme le nouveau chef avait creusé sa propre mine clandestine à l'intérieur de la mine d'État, il avait détourné les systèmes d'évacuation de gaz. Donc le problème, c'est que le gaz n'avait aucun moyen de sortir de la mine d'État. Et donc, il y a eu une explosion.
Donc, si je comprends bien, le patron d'une mine d'État, clandestinement, il a construit une mine privée à son compte, il a détourné les équipements de la mine d'État vers la mine privée,
et les équipements qu'il a détournés ont manqué à ce moment-là. C'est une fable formidable sur la privatisation clandestine et comment la privatisation tue.
结果啥结果？
Comme le conduit d'évacuation n'était pas suffisant, le gaz s'est accumulé, ça a provoqué une explosion, et l'explosion a entraîné la mort de plus d'une centaine de mineurs. Non, au moment où il y a eu l'explosion, je ne suis pas allé voir parce que j'ai cru qu'ils avaient fait sauter la dynamite des roches dans la galerie.
Ah, tu n'avais pas compris tout de suite. Quand est-ce que tu as compris ce qui s'était passé alors ?
C'est le matin vers 7h30 du matin que j'ai su qu'il y avait eu une explosion dans la mine. Quand le jour s'est levé, c'était impossible de. C'était tellement énorme qu'on ne pouvait pas cacher ça.
Tu avais des amis parmi les victimes ?
Il y en avait que je connaissais. J'en connaissais plusieurs.
Est-ce que les familles ont été indemnisées ?
Elles ont été indemnisées.
国家, 有十几万，认识人了多赔一点。
Donc certaines familles ont été indemnisées à hauteur de 200 000 yuan.
C'est-à-dire 20 000 euros ?
C'est ça. D'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Ça dépendait un petit peu des situations.
20 000 euros, c'est le prix de la vie d'un mineur dans cette région de la Chine.
La vie d'un mineur, normalement, elle vaut pas autant d'argent. Mais comme ça s'est passé dans une mine d'État et que ça a eu beaucoup de retentissement, cette fois-ci, oui, ça a été indemnisé à 200 000 yuan.
C'est-à-dire, encore une fois, 20 000 euros. Et on trouve que c'est une très bonne indemnisation.
Le pays où la vie ne vaut pas cher. Des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup à travers la Chine, mais il est rare que quelqu'un ait le courage, l'envie en tous les cas, de raconter les choses avec autant de détails. Notre ami mineur prend un certain nombre de risques. Il faut bien comprendre que la privatisation des mines a profité aux anciens cadres des entreprises d'État, aux petits membres locaux du parti, à la nomenclatura, d'ailleurs comme dans d'autres pays, je pense évidemment à la Russie, mais ce qui vaut pour les mines vaut pour l'ensemble de la Chine. Le passage au libéralisme a profité à l'establishment, comme disent d'autres, à la nomenclatura, qui a capté complètement les richesses, les investissements, la finance et l'enrichissement général. Si bien que ce pays se trouve entre les mains d'une oligarchie extrêmement peu scrupuleuse. Un exemple, on nous dit que, je répète ce chiffre, entre 7000 et 20000 morts chaque année dans les mines chinoises, les indemnités, là, on nous dit qu'elles ont été versées, ce n'est pas toujours le cas, mais en règle générale, ces indemnités vont de 3000 à 10000 euros par victime, mais un blessé, quelqu'un qui est blessé, ça coûte plus cher. Les indemnités sont plus élevées parce que un blessé, ça continue de vivre. Alors il faut, on exige des indemnités plus conséquentes, ce qui ne plaît pas du tout aux propriétaires des mines privées. Et là, on est dans le capitalisme le plus barbare et le plus cynique, puisque pour cette raison, les propriétaires des mines ne sont pas du tout pressés d'alerter les secours en cas d'accident. Un mort vaut moins cher qu'un blessé. Ainsi se passe la vie dans ce pays où la vie ne va pas cher.
Est-ce que le patron qui est responsable, d'après toi, de cet accident, pour revenir à l'accident, a été jugé ?
Non, il n'a pas été condamné. Le patron a donné sa propre version de l'accident et il a expliqué que c'était parce que ses subordonnés ne l'avaient pas écouté. Donc il n'a pas été condamné pour ça.
调查有四个人当时的说 Quatre
subordonnés ont été condamnés à la place de ce chef.
Condamnés à quoi ?
Par exemple, le responsable de la sécurité a été condamné à 7 ans de prison. D'autres ont été condamnés à 2 ans de prison à la place du responsable de la mine.
Et il est où maintenant, lui ?
On l'a démis de sa fonction de chef de mine et puis il a été nommé ailleurs.
Ça, c'est toi qui donnes cette version avec ce détournement par ce chef. Mais est-ce que c'est la version officielle ?
D'autres, il y en a d'autres qui savent, mais la plupart des gens ne veulent pas parler, n'en parlent pas.
C'est un secret.
Si je te connaissais pas, je te raconterais pas cette histoire. Si t'étais pas venu avec Luc, je t'aurais pas raconté cette histoire.
Ceux qui ont un peu de bouteille voient les images sur ce genre de chant révolutionnaire chinois, ces fières chinoises et ces fiers chinois accompagnant le président Mao Tse-tung devant des soleils couchants, des oiseaux qui s'envolent, fiers et fiers ouvriers, ouvrières et paysans allant vers les lendemains qui chantent et les avenirs radieux. C'est un peu de cette nostalgie qui flotte dans le regard et les yeux quelque peu humides de notre ami le mineur déclassé.
Toi, tu as 45 ans ?
44 ans.
44. Est-ce que tu penses que c'était mieux du temps du président Mao ?
Oui, je pense que c'était mieux.
Tu regrettes ?
Ah.
Oui, mais c'est. Mais tu regrettes aussi ta jeunesse.
Josh.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais.
Il rigole pas, là. Ouais.
Et à l'époque, pour vous, le président Mao, c'était tout.
Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus dure qu'avant.
Pour les ouvriers, pour les mineurs.
Toute la Chine, le peuple chinois.
C'est-à-dire que, oui, dans ta jeunesse, quand tu étais gamin, être un mineur, c'était être un héros.
C'est ça.
Être mineur à l'époque, c'était mieux qu'être paysan. À l'époque, les mineurs gagnaient pas beaucoup d'argent. Le pays était très pauvre. Ils avaient de quoi manger, ça suffisait.
Mmh. Et alors, qu'est-ce qui te rend si triste là ? Parce que t'es en larmes là. On est quand même. C'est une situation extraordinaire. On est au milieu de cette mine. On a cru en arrivant que c'était une mine abandonnée, une immense mine abandonnée, tellement c'est en ruine, tellement c'est déglingué de partout, tellement il y a de poussière, de poussier, de crasse et tout. Et pas du tout. En fait, cette mine est toujours en activité. Ici, il y a des milliers de mineurs qui sont à l'œuvre dans ce tas de poussière, on dirait que c'est un truc en ruine. Et là, on est dans cette baraque entièrement fermée, humide, avec du salpêtre partout, avec cet homme solitaire qui est en larmes, parce qu'il regrette sa jeunesse, il regrette le temps de Mao Tse-tung, une époque où le pays était beaucoup plus pauvre. Le pays était beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a regretté alors ?
Je déteste la société d'aujourd'hui. Tous les officiels se serrent les coudes, se protègent entre eux.
Vous avez un sentiment d'abandon.
Vous avez un sentiment d'abandon. 没人帮助你。
Donc aujourd'hui, si tu as des moyens, tu te débrouilles pour survivre. Si tu n'as pas des moyens, tu meurs de faim. Personne ne s'occupe de toi.
Alors voilà, on va quitter l'antre du mineur, mais on n'oubliera pas les posters quand même qui décorent sa petite maison avec des bergers allemands, parce que c'est un fan des bergers allemands. Alors, il y a des posters qui représentent toutes sortes de bergers allemands, et il aime aussi les femmes, les pin-up. Et voilà, il y a tout un tas de posters de pin-up tout à fait friolantes, évidemment pas du tout chinoises. C'est des grandes blondes élancées au bord de la mer et qui font rêver.
Ah ouais, j'ai dans une terre noire.
Merci à toutes et à tous. C'était un reportage avec Guy Van Til. Merci à nos amis mineurs et paysans du Hainan et à Cha Chun. Traduction, Luc, Richard et Yang. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis, je vous rappelle la grande nouvelle. Il arrive le DVD Chomsky et compagnie. Enfin, il va arriver dans les boîtes à lettres des souscripteurs modestes et géniaux. Et dans les jours qui viennent, et ceux qui n'ont pas encore souscrit, vous avez, je vous rappelle, jusqu'au 18 juin 2008 à minuit pile pour faire partie de ce gratin des SMG et recevoir le DVD Chomsky et compagnie. Vous avez des précisions sur le site là-bas.org à ce sujet. À la technique aujourd'hui, Mathieu Ribaud et Julien Chabassu, Koy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Charlotte Perry nous assiste, heureusement, et Christophe Humbert est chargé du répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37. Et puis, je voudrais rajouter un petit mot à l'attention d'Elisa Haricot, Madame Elisa Haricot, qui très très gentiment, du haut de ses 88 ans, nous a adressé toute une collection d'imprimés, de journaux, de tracts, de 1968. On est tout à fait ravis, on se plonge là-dedans et on remercie, et je me permets d'embrasser personnellement Elisa Haricot. Réclame.